France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous, Douce France, une heure pour raconter la France dans toutes ses nuances.
Il faut lutter contre la pollution de l'air, c'est une source de maux, de mauvaise santé, de mort, etc. Mais ça propose des solutions qui sont des solutions totalement inopérantes sur le plan environnemental, car ça ne change rien ou ça ne fait que reporter le problème, et ça crée de la discrimination. Les technocrates qui nous dirigent depuis des décennies ont, par exemple, fait le numerus clausus dans le milieu médical. Donc, on a créé, avec une vision stupide, des déserts médicaux. On a renvoyé tous les gens vers l'hôpital. On a flingué la médecine de ville. Et ceux qui sont dans les déserts médicaux, on les empêche d'aller dans l'oasis médical, à l'intérieur de la ZFE. Et pour un gain environnemental qui n'est absolument pas démontré. Les solutions environnementales doivent être analysées au regard du coût et de l'avantage. Mais lorsqu'elles font de l'injustice sociale, elles créent de la révolte. C'est une évidence. Donc, pas de gain environnemental. 85% des déplacements en France se font en voiture. C'est la même proportion qu'il y a 30 ans, contrairement à ce qu'on croit dans les très grandes villes. 75% des déplacements professionnels se font en voiture. La voiture, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est la pollution.
Serions-nous dirigés depuis des décennies par des technocrates hors sol qui imaginent des politiques publiques qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent? C'est en tout cas la position de David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, ici au micro d'Europe 1 il y a quelques jours. La raison de ce courroux? Une interdiction de circulation de tous les véhicules critère 3 dans le Grand Lyon, le Grand Paris, à Grenoble et à Montpellier. Cette nouvelle étape dans le déploiement des ZFE, les zones à faible émission, doit permettre une réduction drastique des émissions de particules. Ainsi, les véhicules essence de plus de 19 ans et diesel de plus de 14 ans sont désormais bannis des deux plus grandes métropoles françaises, sauf dérogation, soit 20% du parc automobile français. Dans certaines villes populaires des banlieues lyonnaises et parisiennes, cela concerne un foyer sur trois. Une mesure discriminatoire et anti-pauvre selon ces nombreux pourfendeurs qui demandent un sursis et anticipent un mouvement des gilets jaunes puissance 1000 si les sanctions venaient à tomber. Comment penser ces politiques publiques qui doivent combiner droit à la ville, à la mobilité et enjeux de santé publique? Fallait-il pousser ce changement de parc automobile dans un calendrier si contraint, quand les ménages sont dans l'incapacité d'engager de telles dépenses, quand les aides à la conversion de l'État sont suspendues, quand les alternatives à la bagnole tardent à arriver? Comment penser des mobilités inclusives dans ces métropoles dont les gouvernances tiraillent? Au sommaire de Douce France, du Grand Lyon au Grand Paris, les ZFE sont-elles des zones à forte exclusion? Venez, je vous emmène. Et avec nous, en duplex depuis Barcelone, Charlotte Liotta, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse postdoctorale à l'Institut des sciences et technologies de l'environnement de l'Université autonome de Barcelone. Vous avez notamment consacré bon nombre de vos recherches sur ces zones à faible émission et ce, dans toute l'Europe. Bienvenue à vous. Alexis Poulès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport à l'École nationale des ponts et chaussées et vous êtes aussi à l'université Gustave Eiffel. Bienvenue à vous. Première question pour vous, Alexis Poulès. On entendait à l'instant David Lisnard nous parler de mesures décidées par des technocrates hors sol qui nous gouvernent depuis des décennies. Quelque chose qui serait susceptible de créer des discriminations décidées depuis Paris. Est-ce que les ZFE sont synonymes de bombes sociales?
Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les ZFE, elles n'ont pas été au départ décidées vraiment par l'État français. C'était l'Europe qui a contraint l'État français parce que les villes françaises ne respectaient pas les seuils d'émission fixés par l'Europe, à mettre des mesures en place sous peine de fortes amendes. Et donc l'État français a copié ses voisins qui avaient déjà mis en place des zones à faible émission et donc a mis en place, a proposé, notamment dans la loi climat et résilience de 2021, comme vous le disiez, de mettre en place, donc d'obliger les plus grandes métropoles à mettre en place des zones à faible émission.
Donc en fait, ce sont les technocrates de Bruxelles, si on doit reprendre la terminologie de David Lisnard.
C'est ça, avec, contrairement à ce que dit David Lisnard, des réels gains en tout cas sur la qualité de l'air, qui sont avérées scientifiquement.
Alors Charlotte Liotta, justement, est-ce que les ZFE, vous qui avez un regard sur ce qui s'est passé chez nos voisins, et qui ont un peu d'avance, hein, parce que vous le rappeliez à l'instant, Alexis Poulès, la France a été sommée par l'Europe de les mettre en place, est-ce que ça marche ?
Les ZFE, ça permet donc déjà de réduire les émissions de réduire les pollutions.
Alors, on a une très très mauvaise connexion. Charlotte Liotta, on va tâcher de la rétablir. En attendant, je vais poser la question à Alexis Poulès. Est-ce que de ce qu'on sait, est-ce que ça fonctionne notamment sur les émissions de particules ?
Donc ce que font les chercheurs, c'est que donc ils regardent les zones à faible émission qui ont été instaurées depuis un certain nombre d'années. Et ils regardent quel est effectivement le vrai bénéfice de la zone à faible émission, en regardant quel aurait été le gain sans cette zone à faible émission, et donc en gros le renouvellement naturel de la flotte de véhicules, qui de base s'améliore d'année en année, et fait qu'il y a un gain de toute façon annuel de cette zone à faible émission. Et donc ce qu'ils voient, c'est qu'en gros dans certaines villes européennes, c'est que les gains sont entre 5 et 20% uniquement dus à la mise en place de la zone à faible émission. Évidemment, ces différences de gains...
Donc ça veut dire que sur les émissions de particules, notamment particules fines, on voit véritablement des conséquences directes avec le changement de parc.
Là, il y a des conséquences directes du changement de parc et du fait de la zone à faible émission, d'une accélération de ce changement de parc. Et ça, il n'y a aucune étude qui contredit le fait qu'il y a des gains réels.
Alors, ça veut dire que cela fonctionne. Est-ce que ça suffit pour véritablement faire baisser la pollution dans nos zones urbaines extrêmement denses et dans les métropoles ?
5 à 21%, ça reste assez faible. Ça diminue depuis un certain nombre d'années, du fait, comme je disais, de l'amélioration du parc automobile, des normes du coup européennes qui sont quand même de plus en plus strictes. Mais il y a aussi évidemment d'autres origines de pollution, donc il y a des origines importées. Souvent, on entend les centrales à charbon avec le vent qui vient dans les métropoles françaises. Voilà, c'est souvent ce qu'on entend souvent. C'est pas du tout local, mais ça vient d'autres pays. Il y a ça. Il y a aussi l'agriculture qu'on peut avoir comme source externe. Mais il y a aussi d'autres sources qui viennent des villes, notamment donc le chauffage au bois. Il y a encore du chauffage au gaz, au fioul.
Et ça, on se chauffe au bois encore dans les villes ? On fait des feux de cheminée ?
On fait encore des feux de cheminée. Donc le chauffage est interdit officiellement dans les centres. Par contre, on a encore du feu d'agrément, comme on dit.
Et ça pollue énormément. Et c'est des microparticules.
Voilà, c'est des sources de. En hiver, en tout cas, c'est une des plus grosses sources de particules fines. Et donc aussi, il y a les NOx qui sont suivis. Donc c'est vraiment les deux. Il y a trois polluants en gros qui sont vraiment suivis dans les dans les villes et qui sont encore des grands enjeux de pollution. Et donc c'est les particules fines, les NOx qui sont essentiellement dues encore aux véhicules diesel et l'ozone urbaine.
Alors est-ce qu'on vous a récupéré, Charlotte Liotta ? Est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis de retour, désolée.
Non, mais je vous en prie. On se demandait justement tout à l'heure, est-ce que ces zones à faible émission, ce que vous avez pu regarder chez nos voisins, est-ce que ça fonctionne ?
Alors ça fonctionne. Donc ça permet, comme j'ai entendu que Calypso disait, de réduire les pollutions locales, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Ça ne fonctionne pas pareil dans toutes les villes, ça dépend évidemment de la forme de la ville. De la manière dont les gens avaient déjà tendance à se déplacer et de la manière dont la ZFE est mise en place. Donc, quel véhicule elle va concerner, sur quel périmètre et avec et de quelle manière la ZFE va être mise en place. Est-ce qu'on aura beaucoup d'exemptions ou non ? Est-ce qu'on aura beaucoup de dérogations ou non ? Donc, on a des bénéfices qui sont nuls dans certaines villes et qui sont très élevés dans d'autres.
Alors, je vous propose de plonger justement avec les automobilistes concernés. Des véhicules critères 3 en Ile-de-France, on en compterait 420 000. Dans le Grand Lyon, ce serait autour de 60 000. Montpellier et Grenoble, je le disais, ont aussi interdit les critères 3 depuis le 1er janvier. Et on compte près de 40 000 décès attribuables chaque année à une exposition aux particules fines. Hein, ça, ce sont des chiffres de Santé publique France. Mais malgré tout, depuis l'annonce de ces interdictions, les réactions courroucées des automobilistes pleuvent. Florilège par Vanessa Nadjar.
Ça devient compliqué de savoir si on peut, si on peut pas, à partir de quelle heure, quel jour, qui, quand, quoi.
Il y avait des jours où les critères 1, 2, 3 pouvaient rouler, d'autres c'était... Enfin, j'ai pas trop compris le truc.
La cause est noble. Après, voilà, il faut avoir les moyens de le faire.
Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y a que les gens riches qui vont pouvoir circuler dans Paris.
Critère 3, oui, ok. Bon, bah, bonne nouvelle. Il faut que j'achète une nouvelle voiture et on n'a pas les moyens, donc...
Critère 3, ça commence à concerner beaucoup de véhicules. Hein, à peu près 20% des véhicules qui circulent dans la région parisienne.
Et actuellement, pas trop les moyens pour changer de voiture. Du coup, je continue comme ça jusqu'à ce que je me fasse, on va dire, prendre.
C'est vraiment très flou. Et après, pour les camions de livraison, on ne peut pas changer toute une flotte de camions, parce qu'il y en a une dizaine. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit dans les normes qui demandent.
Un véhicule hybride utilitaire, ça vaut 60 000 balles. Je fais comment pour investir 50 000 balles dans un utilitaire? J'ai acheté le mien quasiment neuf, il m'a coûté 39 000 euros. J'ai mis 5 ans pour le rembourser. Mais je fais comment, moi, pour les rembourser ces 54 000 balles?
Est-ce que c'est vraiment très écologique de pousser à l'obsolescence programmée des millions de voitures? Enfin, je veux dire, je trouve ça complètement fou.
Il y a 15 ans, on vendait du diesel parce que c'était, il fallait absolument rouler tous en diesel. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la bête noire, le diesel. Ah, je comprends pas.
Ben à force de supprimer les voitures, on supprime les commerces. Aujourd'hui, les grandes surfaces qui sont à l'extérieur des villes, elles font le plein, ne désemplissent pas d'activité. Mais les commerçants du centre-ville, eux, justement, font grise mine parce que leur clientèle qui venait avant de l'extérieur, ben, ne vient plus.
Voilà, on vient d'entendre des paroles d'automobilistes. Charlotte Lota, on entend que s'ils comprennent l'objectif, ce changement à marche forcée, quand on connaît les réalités économiques des ménages, bah, c'est pas très audible. On entend une forme de colère. Est-ce qu'elle est logique?
Alors, cette colère, elle est logique. Elle est logique, mais en fait, le débat et les réactions des gens qu'on vient d'entendre, elles se concentrent beaucoup sur la question des véhicules polluants qui seraient, que posséderaient surtout les ménages les plus pauvres. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette idée que les ZFE seraient une bombe sociale, un symbole d'exclusion. Alors ça, c'est vrai, les statistiques le montrent, c'est bien les ménages les plus modestes qui possèdent les véhicules polluants qui vont être interdits, qui sont en cours d'interdiction à cause de la mise en place des ZFE. Mais il faut rappeler deux autres éléments. Le premier, c'est que c'est aussi ces ménages les plus modestes qui sont parfois... dans certaines villes, les plus concernées par les problèmes de pollution de l'air et de santé liés à la pollution de l'air.
Oui, ce sont eux qui vivent notamment près des échangeurs, qui sont dans des zones où la pollution est la plus forte. Enfin, ça, effectivement, sur les questions écologiques, la pollution, ce sont eux qui la subissent le plus.
Tout à fait. Alors, c'est en pratique, cela dépend des villes, mais en tout cas, c'est important de mettre en balance. L'exclusion liée aux ZFE et les problèmes qu'ont les ménages les plus modestes pour changer de véhicule, avec les bénéfices qu'ils peuvent retirer de la mise en place de ces ZFE en termes de santé. Mmh. Et le deuxième élément important, c'est que même si on se concentre sur la question des véhicules polluants, il faut regarder plus largement en ville qui habite où, qui travaille où, qui se déplace de quelle manière. Il ne faut pas regarder seulement les types de véhicules que possèdent les ménages les plus modestes, mais il faut regarder aussi s'ils ont un bon accès au transport en commun, par exemple, pour pouvoir substituer les trajets qu'ils faisaient en voiture par des transports en commun. Il faut regarder où est-ce que ces personnes vont aller travailler, etc.
Oui, donc on voit effectivement qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large. On ne peut pas juste dire une bombe sociale. En fait, ça dépend du contexte dans lequel ça s'inscrit en termes de territoire.
Voilà, tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à court terme, on n'offre pas forcément aux ménages d'autres manières de s'adapter. Et la seule manière concrètement dont les ménages peuvent s'adapter à la mise en place des ZFE à court terme, c'est de racheter un véhicule. Et c'est ce coup-là qui est vu en premier par les ménages. Et c'est pour ça que les ZFE ont cette image de bombe sociale.
Mmh. Justement, on l'entendait à l'instant dans cette colère, hein, un véhicule propre, critère 1, voire critère 0. Donc critère 0, c'est un véhicule électrique. Il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexis Poulès, quand on voit à quel point ça met en évidence les tensions entre les enjeux environnementaux et sociaux? On voit que malgré l'objectif qui est sain, qui est reconnu par tous, c'est la nécessité de faire baisser la pollution, bah, cette question sociale, en fait, elle vient percuter cette réalité.
Alors déjà, je pense que les bénéfices en termes de qualité de l'air, en termes de santé publique, qui sont avérés, et notamment, comme le rappelait Charlotte Lotha, pour les populations les plus défavorisées ou les plus à risque, elles sont rarement connues du grand public. Et je pense qu'il y a déjà un manque de communication sur ces choses-là des pouvoirs publics qui montrent peut-être leur méconnaissance, mais surtout qui ne permet pas de désamorcer un peu cette bombe sociale, comme vous disiez. Et je pense que voilà, ça c'est un premier élément qu'il faut rappeler. Et ensuite sur les je rejoins aussi ce que disait Charlotte Lotha sur les inégalités d'exposition et en termes de santé publique. Je pense qu'il y a aussi des sentiments d'inégalité qui peuvent avoir lieu dans le sens où, comme on entend aussi souvent, on voit voilà, il y a encore des voitures électriques, des gros SUV qui peuvent rouler dans les zones à faible émission. Et en général, ces grosses voitures, elles sont possédées par des ménages riches. Et ça voilà, ça participe du sentiment d'inégalité.
D'inégalité. Pardon. Effectivement, on peut comprendre que quelqu'un qui a dû abandonner son véhicule critère 4, critère 3, qui date de 2003, même si c'est un petit rouleur, de voir des SUV qui sont aussi controversés quant au poids écologique et au poids tout court. On se souvient des votations qui ont eu lieu notamment à Paris. Ça peut paraître un peu incongru.
Oui, et ça contredit un peu ce que disait le maire de Cannes, qui est que la voiture est un problème uniquement de qualité de l'air, ce qui est un peu faux. Dans les centres-villes, on sait qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, notamment de congestion, de sécurité, et même voilà, de climat, qui font qu'on peut pas s'arrêter uniquement à la qualité de l'air sur ces questions-là. Il y a aussi un autre enjeu sur lequel je voudrais revenir, c'est les personnes qui habitent à l'extérieur de la ZFE et qui doivent rentrer pour des questions de travail ou d'activité dans la ZFE. Ceux-là, en général, sont assez oubliés aussi des pouvoirs publics. Participent aussi de l'enjeu d'inégalité.
Mais c'est justement ça. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont été oubliés? Comment se fait-il que les usagers de la ville-centre ou de la métropole puissent être à ce point oubliés dans le cadre des politiques publiques et on se retrouve avec donc cette colère qu'on vient d'entendre de gens qui disent c'est à moi de me démerder et donc de changer de véhicule, sauf que j'ai pas les moyens de changer de véhicule et donc c'est pas grave, je vais aller au devant de la sanction.
La première chose, c'est déjà le périmètre institutionnel. La ZFE, c'est un périmètre métropolitain avec des communes qui adhèrent ou qui adhèrent pas. Par définition du périmètre, ce sera les citoyens résidents qui vont intéresser les politiques locales. Et du coup, les personnes qui viennent, c'est un intéressement. Et pareil, quand on voit sur les primes qui sont proposées, souvent, c'est à l'échelle de la métropole uniquement qu'il peut y avoir des primes, donc en plus de celles de l'État qui sont proposées. Qui ne sont pas disponibles aux personnes qui viennent dans la métropole.
Ouais, voilà, ZFE. Ce qui est terrible, Charlotte Lyotta, c'est que par ailleurs, alors que notamment la métropole du Grand Paris a mis en place donc cette interdiction des critères 3, elle a fait savoir que il n'y aurait aucune sanction sur 2025 quant à la circulation de ces véhicules dans le cadre de la ZFE. Est-ce que ça veut dire que sans contrôle, enfin que on est plutôt dans une année dite de pédagogie, mais sans contrôle, ça veut dire qu'on est dans une forme de zone à faible émission virtuelle? Alors à quoi ça sert?
Il y a deux manières de voir les choses. Si on voit les choses positivement, comme le voit Paris. Donc l'un des gros problèmes des ZFE, en fait, c'est le manque d'informations. Les gens ne savent pas vraiment quels sont les bénéfices liés aux ZFE, quels sont les bénéfices en termes de santé publique. Ils ne savent pas forcément que c'est des bénéfices en termes de santé publique qui vont bénéficier aux ménages les plus modestes en particulier. Ils n'ont pas une très bonne vision Voilà, du calendrier de la ZFE des véhicules qui sont interdits, notamment parce qu'il y a eu plusieurs ralentissements, changements du calendrier, etc. Et donc, on peut voir les choses positivement et se dire que c'est une bonne chose d'avoir une phase de pédagogie pour que les ménages connaissent mieux ce dispositif de zone à faible émission et puissent avoir le temps de s'y adapter. On peut aussi voir les choses de manière plus négative. Les zones à faible émission, c'est une obligation européenne qui a été décidée par l'État français, qui doit être mise en place ville par ville. On a eu différentes interruptions du calendrier, différents changements de calendrier, de périmètre de ZFE également pour certaines villes. Et on peut voir cette phase de pédagogie comme une phase qui rajoute encore de l'incertitude pour les ménages. On a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que sont les ZFE, qui ne savent pas à quel moment elles seront mises en place, qui ne savent pas si leur véhicule peut continuer à circuler ou non.
Et cette incertitude-là, elle alimente la colère.
Voilà, cette incertitude, elle alimente la colère. Et en fait, paradoxalement, on a cette incertitude parce que les villes font tout pour retarder les ZFE, pour éviter d'avoir les gilets jaunes bis, les gilets jaunes fois 1000, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais en fait, c'est quelque chose qui va rendre les choses encore plus compliquées pour les ménages.
Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans certaines villes européennes, donc notamment je pense à Bruxelles et Londres, ils ont mis un système d'amende par caméra, donc c'est automatique dès qu'on rentre dans le périmètre de la ZFE, il y a une amende, et ils ont été plus loin dans les restrictions que nous où on en est en France, en tout cas pour Londres et pour Lyon et Paris. Et donc une des façons de comment ils y sont arrivés, c'est que justement ils ont fait preuve de pédagogie et depuis longtemps les citoyens savent que les restrictions vont arriver à une certaine temporalité. Et au-delà de ça, il y a aussi donc beaucoup évidemment de communication sur les aides qui sont disponibles, sur les donc pour les personnes qui viennent de l'extérieur de la zone de parking vers les autour des gares qui desservent le centre des villes, qui sont disponibles pour les personnes gratuits souvent. Et donc toutes ces choses-là font que voilà, ils ont pu aller beaucoup plus loin que nous.
Alors justement, hein, ces caméras dont vous parlez qui font des contraventions, elles sont censées être mises en œuvre courant 2026, notamment sur le territoire du Grand Paris. Mais quand vous disiez à l'instant, Charlotte Liotta, que voilà, il faut s'attendre à une opération gilet jaune puissance 1000 si les sanctions viennent à tomber, qu'est-ce que ça dit de l'incapacité des politiques, notamment en France, à faire face à cette question de la bagnole, pardon, je vais reprendre ce terme, puisque on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une taxe sur le diesel, hein, enfin une taxe sur le carburant. Est-ce qu'il y a un rapport dans l'étude que vous avez pu faire au sein de l'Europe, est-ce qu'il y a un rapport particulier des Français à leur voiture?
Je ne sais pas s'il y a un rapport particulier des Français des Français à la voiture. Alors on a pu voir qu'effectivement augmenter les prix de l'essence, ça bloque. La mise en place des zones à faible émission, ça bloque. C'est également le cas dans certains autres pays européens, par exemple l'Allemagne où les Allemands sont aussi de manière générale attachés à la voiture. Et les tentatives de mettre en place des politiques publiques pour donner moins de place à la voiture dans la ville de Berlin, par exemple, elles se heurtent aussi à des contestations. Voilà. Pourtant, en France, on pourrait, par rapport à d'autres villes européennes, on a des villes comme la ville de Paris, par exemple, qui sont déjà en bonne voie vers le fait de donner moins de place à la voiture. On a des villes qui sont relativement compactes, on a déjà des transports en commun qui existent. On pourrait imaginer aller vers plus de... continuer cette stratégie et donner de moins en moins de place à la voiture. Mais on a aussi une dimension assez forte où la voiture, elle est liée au fait d'habiter en banlieue, d'habiter dans des espaces ruraux.
Oui, c'est aussi la construction de nos métropoles, c'est l'étalement. Il y a l'étalement urbain qui a conduit aussi à l'omniprésence de la voiture dans nos modes de vie. Qu'est-ce que ça raconte, Alexis Poulès, de notre rapport justement à la voiture? On ne peut pas s'en passer, c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'on a créé cette forme de dépendance, que cette question est si épidermique dans le débat public.
Ce que je trouve intéressant, c'est justement cette dichotomie un peu entre les centres-villes des grandes métropoles qui sont de plus en plus, et c'est pas uniquement les politiques, hein, c'est derrière les citoyens, les résidents des centres qui veulent avoir de moins en moins de voitures au sein de leur ville, et au contraire les espaces les plus périphériques qui sont de plus en plus non seulement contraints mais qui revendiquent cette volonté d'avoir accès à cette voiture. Et cette contradiction elle semble de plus en plus forte. Et voilà, qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle sur justement ces tensions exacerbées un peu qui se voient à travers la ZFE.
Alors justement, Vénissieux est une ville populaire hein, de la banlieue lyonnaise située dans la ZFE du Grand Lyon. 34% des 67 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté et 30% du parc automobile est estampillé critère 3 contre 11% du parc auto particulier en moyenne dans l'agglomération. Michèle Picard est maire communiste de la commune depuis 2009 et elle fustige une mesure antisociale et un manque d'accompagnement. Elle a même écrit à Bruno Bernard, le président de la métropole, pour demander à desserrer le calendrier. On l'écoute.
Le dispositif ZFE, personne ne peut être contre de réduire la pollution et la décarbonation. Personne ne peut être contre. Par contre, effectivement, je pense que d'abord l'État a imposé les ZFE, et puis ensuite les métropoles ont décidé d'un calendrier, et donc la métropole de Lyon a un calendrier que moi je juge bien trop serré pour qu'il soit en fait acceptable par la population. Moi j'ai une population, effectivement, il va y avoir à peu près plus de 7000 véhicules qui sont concernés dès à présent par le critère 3. Nous avons des personnes qui sont en difficulté, qui peuvent être fragiles ou précaires. Même des gens qui travaillent n'ont pas forcément la possibilité de changer très rapidement de véhicule. On avait fait une consultation en 2023, qui montrait en fait que les Vénitiens, ils n'étaient pas suffisamment au courant du dispositif, ils n'étaient pas suffisamment au courant des accompagnements, des aides, et du coup, effectivement, quand on leur expliquait le calendrier, ils se faisaient beaucoup de soucis parce qu'ils ne pourraient pas changer leur voiture, entre guillemets, dans les temps. Donc moi, je demande effectivement qu'on desserre ce calendrier. Parce que moi, je pense qu'effectivement, quand les habitants sont compris, sont accompagnés, ils ne peuvent qu'adhérer. Mais pour ça, il ne faut pas que ça soit vu comme une contrainte ou comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, tout simplement. En fait, l'État dit qu'il faut aller vers une transition, mais en même temps, on n'accompagne pas les habitants. Les habitants, ils voudraient pouvoir changer de véhicule. Les petites entreprises voudraient pouvoir changer de véhicule. Il y a des gens, effectivement, qui disent que c'est injuste. On est pénalisé parce qu'on n'a pas les moyens. Nous, en 2023, on avait déjà alerté comme quoi les habitants connaissaient très peu les dispositifs et connaissaient pas ou très peu les conditions d'aide. Et puis, il y a les transports en commun. Moi, je pense qu'effectivement, on a le développement du transport en commun. Mais par exemple, sur le quartier des Minguettes, le T4, on voit que il est très chargé. Alors, on a d'autres lignes qui sont en train d'être construites, je pense notamment à la ligne T10 et d'ici 2030 la ligne T8. Mais entre-temps, effectivement, aujourd'hui, on a une difficulté parce que le tramway est très chargé. On sait que ce genre de changement, il faut que ce soit compris par la population. Il faut que les habitants se disent, oui, effectivement, on veut tous vivre correctement, etc. Oui, mais du coup, comment on fait pour que le changement de véhicule, l'accompagnement, les aides, et encore une fois, l'État a supprimé, voire et baissé des aides. Donc, en plus, dans le même temps que le calendrier est serré, l'État supprime et baisse des aides, l'aide à la transition et l'aide à la casse. Donc, c'est contre-productif, là aussi. Il faut savoir ce qu'on veut.
Faut savoir ce qu'on veut, nous dit Michel Picard, la maire communiste de Vénissieux. Alexis Poulès, elle dit beaucoup de choses, hein, finalement. On a presque le sentiment d'une politique qui a été, du coup, peut-être mise en œuvre trop vite. On parlait d'alternatives tout à l'heure avec Charlotte Liotard. Et là, les alternatives pour les Vénitiens, les transports vont arriver, mais plus tard. Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs dans certaines zones?
Je pense qu'on peut être que d'accord avec la maire de Vénissieux. Notamment donc le fait que les aides, souvent, elles sont pas connues, notamment des ménages les plus pauvres, qui ne savent pas qu'il y a des aides qui peuvent être demandées sous différents guichets, à différents échelons territoriaux.
Oui, il y a un vrai sujet d'accompagnement.
Ça, c'est sûr que oui, je pense qu'il y a des... ils savent pas, en fait, les aides qui sont à disposition, et je pense que pas grand monde ne peut savoir, vu toutes les... Et puis, en plus, faut, voilà, je pense qu'il faut beaucoup de... Enfin, faut monter un dossier qui doit pas être simple non plus à faire. Il y a cette question-là, il y a évidemment la question du report modal. Donc, il y a les transports en commun, on parle, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le vélo, qui peut être une solution. Aujourd'hui, il y a donc dans les centres, souvent, il y a des choses qui se font, des pistes cyclables qui ne vont rarement au-delà du centre urbain, notamment à cause de problèmes de millefeuilles territoriaux, encore une fois. Et il y a aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que vous disiez 30% de ménages à peu près en dessous du seuil de pauvreté.
34% sur les 67 000 habitants des habitants de Vénissieux.
Il faut savoir qu'il y en a quand même aussi un certain nombre qui n'ont même pas accès à la voiture. Donc il y a aussi ces personnes-là qu'il faut aussi de base considérer.
Mais là, ça pose la question, Charlotte Liotard, du droit fondamental à la mobilité, du droit d'accès à la ville-centre. Comment ça s'est passé chez nos voisins? Est-ce que cette question de l'acceptabilité sociale, elle a été aussi centrale à tel point que vous avez aujourd'hui des maires dans les communes concernées par ces zones à faible émission qui disent, comme le fait par exemple Michel Picard, la maire de Vénissieux, qui disent on n'appliquera pas les sanctions, on n'appliquera pas ces zones à faible émission parce que notre population n'est pas en capacité, en fait, de s'offrir la ville-centre, quoi.
Alors, si je peux déjà revenir sur un tout petit point. Vous avez parlé de droit à la mobilité. Et en fait, c'est très important de distinguer droit à la mobilité et droit à la voiture, en fait. La mobilité, c'est beaucoup plus large que la voiture. Et on pourrait imaginer que cette mobilité, elle se fasse de manière complètement sans voiture, mais par des transports en commun et par des mobilités actives. Ce qui a été fait dans d'autres villes européennes, on a eu des débats dans d'autres villes européennes, même si elles ont été moins intenses qu'en France. Voilà, ce qui nous donne des points de comparaison, des cas d'études très intéressants.
Vous pensez à quoi notamment?
Même si c'est des choses qui sont encore en cours et qui sont encore observées, on a en Espagne le même processus qu'en France, donc de ZFE qui vont être mises en place non seulement dans des grandes villes, mais aussi dans des villes de taille moyenne et de taille plus petite. Et donc on a des études sur le fait que les ZFE, elles vont avoir des conséquences sur la manière dont les gens se déplacent, sur le report modal, mais aussi plus largement sur les endroits où les gens habitent, sur les commerces, sur l'activité économique et sur le fait qu'en fait, il faut penser toutes ces transformations de manière systémique sur le long terme.
Et il y a aussi des conséquences sur l'emploi, et c'est notamment là-dessus que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que, notamment dans les zones les plus populaires de ces ZFE, vous avez vu des conséquences directes sur l'employabilité des individus?
Alors c'est quelque chose qui a été démontré, que l'accès à l'emploi, et quand je dis accès à l'emploi, c'est... est-ce qu'avec les moyens de transport qu'on a à notre disposition, notre voiture, les transports en commun près de chez nous, est-ce qu'on peut se déplacer pour chercher du travail dans une zone plus ou moins élargie? Et donc ça, c'est accès à l'emploi, le nombre d'emplois qu'on a à proximité relative de notre domicile, c'est directement lié au chômage, c'est directement lié au salaire qu'on va réussir à obtenir, etc. Donc oui, si de manière directe, à cause des ZFE, certaines personnes ne peuvent plus se déplacer dans le centre-ville, par exemple, pour y chercher du travail, ça aura des conséquences directes sur le chômage, sur le salaire, etc.
Alexis Poulès, ça, cette question justement, cette question sociale autour, enfin vous travaillez sur les mobilités, mais en fait on ne peut pas penser ces questions de mobilité sans convoquer cette dimension systémique dont nous parlait à l'instant Charlotte Liotta.
Ouais, ça me fait penser d'ailleurs que au-delà des mobilités, ça interroge aussi l'accès au logement, notamment dans les centres-villes, où on voit que ben voilà, du coup les populations résidentes des centres ne veulent plus de la voiture. S'ils veulent plus de la voiture, c'est que quelque part ils n'en ont pas besoin au quotidien. Et ça interroge justement l'accès à la résidentialité des plus pauvres dans les centres, qui n'est qui est de moins en moins évidente, parce que voilà, dans les grandes villes, on voit que à part les HLM, c'est de plus en plus difficile de se loger pour les populations les plus pauvres du fait de prix très élevés des habitats et de l'accès à la propriété et de la location. Ça interroge aussi évidemment la mobilité dans les périphéries, qui sont toujours par les pouvoirs publics orientés vers la voiture. On continue à construire des entrepôts logistiques géants qui ne peuvent être accessibles pour les personnes qui travaillent, qui sont plutôt des populations précaires en voiture.
Oui, dans des zones d'activité qui sont extrêmement éloignées des centres, sur des aires d'autoroute, enfin qui relient très vite l'autoroute. Mais ça veut dire aussi que on est sur des systèmes logistiques qui sont profondément carbonés. Et ça aussi, ça a une incidence. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas que les ménages à travailler sur cette question.
Bien sûr, et ça rejoint aussi une chose importante, qui est que les populations des centres peuvent avoir un sentiment d'injustice sur la qualité de l'air, en se disant bah voilà, c'est des populations des périphéries qui viennent polluer alors que moi je n'utilise pas la voiture au quotidien, et pourtant par notamment leur pratique d'achat en ligne qui développe de plus en plus, on voit que indirectement ils contribuent du fait de la livraison, des modes de livraison actuels qui sont souvent en camionnette, qui contribuent au fait que cette pollution elle est aussi indirectement
En fait,
par ces gens-là.
On produit aussi indirectement de la pollution par nos pratiques et par nos consommations. Alors, on retourne dans le Grand Lyon. On a entendu à l'instant donc la maire de Vénissieux, Michel Picard, qui avait donc des revendications vis-à-vis de la métropole. Eh bien, c'est Jean-Charles Colas, le vice-président délégué au déplacement de Lyon Métropole, qui lui répond.
Les zones à faible émission qui ont été mises en place en Europe depuis 2008, hein, il y en a 320 dans toute l'Europe, effectivement, sont mises en place très tardivement en France, puisqu'il a fallu attendre les lois de 2019 et 2021. Et aujourd'hui, la loi oblige les métropoles de Paris et de Lyon de mettre en place des zones à faible émission avec un calendrier que les métropoles ne maîtrisent pas. Mais on a mis en place un processus depuis 3 ans pour effectivement trouver des solutions, accompagner cette mise en place et faire en sorte que et le périmètre et les capacités d'accompagner les gens soient adaptées d'abord aux besoins d'amélioration de la qualité de l'air, parce que l'enjeu il est d'abord là, et ensuite effectivement qu'il soit le plus acceptable possible socialement. Et donc l'enjeu premier et principal, c'est de développer les alternatives à la voiture individuelle. Ça sert autant pour ceux qui n'ont pas du tout de voiture, et même pour ceux qui sont précaires et qui ont besoin d'une voiture parce qu'ils sont pas très bien desservis par les transports en commun. Améliorer l'offre de transport en commun, c'est essentiel pour leur offrir une capacité de mobilité qui coûte bien moins cher que la voiture. On a bien sûr mis en place un certain nombre de mesures d'accompagnement, des aides pour ceux qui ont vraiment besoin d'un véhicule. En plus des aides de l'État, on a ajouté des aides métropoles. Et puis, bien sûr, l'État vient d'abandonner ces aides. Donc, du coup, les aides métropoles représentent beaucoup moins. Mais à l'époque, on avait quand même un reste à charge qui pouvait descendre jusqu'à 1 000 euros pour une voiture critère 1 en bon état. Et en plus, on a bien sûr mis en place des dérogations. Petits rouleurs, qui les autorisent à rentrer avec leur véhicule critère 3 dans la zone à faible émission pour un maximum de 52 journées par an. Le droit à la ville comme le droit à la mobilité d'ailleurs. C'est pas que le droit à la voiture individuelle. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, venir en voiture dans le centre de Lyon ou même de la métropole de Lyon, ça coûte très cher. Et donc, offrir des alternatives en transport en commun efficaces, rapides, fréquentes et qui commencent tôt le matin et finissent tard le soir, c'est un vrai droit à la mobilité, un vrai droit à la ville pour les habitants en situation de précarité, comme pour tous les autres habitants, bien évidemment. Toutes les études dans toutes les grandes villes de France ou d'ailleurs en Europe montrent que moins on met de voitures dans les zones commerciales des centres-bourgs, des centres-villes, plus il y a de clients et plus le montant du panier de ces clients est élevé. Et il y a une légende urbaine bien défendu par les commerçants, qui dit « no parking, no business ». Cette légende, elle est totalement fausse. La résistance au changement, on la connaît tous. Et c'est naturel et c'est normal. Donc effectivement, le premier réflexe quand on vous demande de changer de comportement, c'est de vous rebiffer, de vous révolter. On souffre de plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la France a attendu trop longtemps pour engager ce processus. Il y a 320 zones à faible émission en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche. Il n'y a pas eu de révolution. Et quand les Français vont en tant que touristes à Milan ou à Barcelone, ils savent qu'il y a une ZFE et s'ils veulent pas avoir de contravention, ils se débrouillent pour soit utiliser un autre mode de déplacement dans la ville, soit avoir un véhicule autorisé. Mmh. Et ça depuis longtemps. Le problème, c'est que nous, la France est décidée en 2021 à commencer le processus, donc il nous reste très peu de temps pour changer les comportements. Et là, l'État a très peu communiqué sur la mise en place de ces ZFE. Or, la métropole de Lyon, mais comme celle de Paris, n'a pas les mêmes moyens pour arriver à toucher toutes les populations, pour leur expliquer les choses et les accompagner.
Alors, on a entendu beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire Jean-Charles Colas, vice-président délégué au déplacement de Lyon Métropole, mais on entend un processus décisionnel qui part de l'Union européenne, qui met en place ses ZFE, la loi climat-résilience qui les intègre au droit français, des territoires, en l'occurrence des métropoles, qui sont donc des gouvernances locales, mais qui parfois, je pense notamment à la métropole du Grand Paris, représentent 77 territoires qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, avec une ville-centre qui peut avoir tendance parfois à être hégémonique par rapport à ses voisins. Qu'est-ce que ça raconte, Alexis Poulès, de... peut-être l'exemple typique des problèmes de gouvernance locale et de mise en place de politiques publiques. Là, on voit bien que finalement, entre les aides prévues par l'État, les aides prévues par la métropole, l'agence de la mobilité mise en œuvre, mais les villes qui ne sont pas d'accord pour le mettre en place, et puis les aides de l'État qui sont retirées, on a le sentiment quand même que c'est un grand flou.
Surtout, je pense que après, c'est très facile de te renvoyer la balle, sachant qu'il y a tellement
d'acteurs.
Tellement d'acteurs. Qui ont chacun une toute petite compétence sur les mobilités. Et les mobilités, comme le disait Charlotte Lyotta, ça peut être vu que d'une manière globale. Sinon, on n'attrape pas grand-chose. Et souvent, voilà, il y a ce qu'on appelle des effets rebonds qui font que on agit d'une certaine manière et il se passe des choses qu'on ne maîtrise plus du tout. Quand par exemple, on peut parler des pistes cyclables, vous avez donc aujourd'hui la ville de Paris qui est assez autonome sur son territoire, donc peut faire des choses. Ce qu'on voit sur les territoires, sur la périphérie, la petite couronne, où il y a de plus en plus d'actifs qui prennent le vélo, qui ont envie de plus en plus prendre le vélo sur des longues distances, ne sont pas accompagnés dans l'offre cyclable, où il y a peu de pistes cyclables qui sont mis en place.
Parce que justement, il y a pas de pérennité de l'offre entre la ville centre et les périphéries.
C'est ça, parce que il y a trop d'acteurs qui sont pertinents sur la mise en place de pistes cyclables. Il y a la région, le département et les communes qui se renvoient la balle en disant voilà, c'est pas exactement notre périmètre. Et ça, sur les mobilités, c'est un peu général. Et du coup, voilà, c'est très compliqué.
Et Charlotte Lyotta, justement, cette question de la gouvernance, elle est quand même centrale dans la mise en œuvre de ces politiques qui sont à la fois, vous le disiez, des politiques de mobilité, mais pas seulement, puisqu'elles viennent percuter la question sociale.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alexis. Donc on a des compétences qui sont, on a des gens qui se renvoient la balle, des compétences qui sont fractionnées sur les questions de mobilité. Et en fait, la question des ZFE, elle va presque au-delà de la mobilité, parce que ça pose aussi la question de qui habite à quel endroit, qui travaille à quel endroit. On a aussi une question de, par exemple, de manque de mixité sociale de certains quartiers. On a cette image des plus riches qui habiteraient dans les centres-villes et des plus pauvres qui habiteraient en dehors. Et donc, c'est un problème de manque de mixité sociale de certains quartiers aussi. Donc, il faut repenser les choses plus largement. Il faut repenser le logement, il faut repenser l'emploi. Il faut repenser aussi, c'est quelque chose qui est déjà revenu dans deux des extraits que vous avez diffusés, mais on a la question des commerces, des petits commerçants, etc., qui se demandent comment les ZFE vont les impacter. Et là, de la même manière, on a la... En fait, ce que montrent les études, pour nuancer un peu ce que disait l'une des personnes dont vous avez diffusé la prise de parole, c'est que les ZFE, elles vont impacter les commerces et En fait, on a des effets qui sont complexes. Pour certains types de commerce, la ZFE va leur bénéficier. Donc, instinctivement, on se dit qu'on a envie d'aller faire du shopping en centre-ville, dans une rue piétonne où la qualité de l'air est bonne. Mais on a moins envie d'aller acheter des meubles en centre-ville si on ne peut pas les ramener chez soi en voiture. Donc, en fait, il faut aussi repenser comment aider ces commerçants à s'adapter aux ZFE. Et donc, en fait, on a à la fois différents acteurs qui sont concernés, différents secteurs qui sont concernés, donc mobilité, logement, etc. On a aussi la nécessité de mettre en place des aides à court terme et à long terme. Donc, on a une dimension temporelle. Et donc, comme vous dites,
on a un problème de gouvernance face à cette dimension systémique.
Et on a un grand fou.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Alors, au-delà des questions de justice sociale, les zones à faible émission posent question parce qu'elles constituent des barrières invisibles à l'entrée des villes. L'histoire montre que ces frontières ne sont jamais anodines. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Dans votre chronique, vous revenez sur l'histoire politique des barrières de Paris.
Oui, une histoire mouvementée qui débute quelques années avant la Révolution avec l'édification du mur des fermiers généraux. Une enceinte fortifiée parsemée de barrières d'octroi où les marchandises sont taxées à l'entrée de Paris, comme elle était d'ailleurs dans toutes les villes. Les Parisiens s'émeuvent de cette fortification avec d'ailleurs une certaine poésie. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Alors c'est un alexandrin qui n'est pas de moi, qui était anonyme, qui a été composé à cette époque. En juillet 1789, ces barrières sont incendiées dans un épisode méconnu de la Révolution que raconte ici l'historien François Lebrun.
Ce mouvement populaire, ce mouvement des foules, soit à Paris, soit en province, s'attaque aux boulangeries, s'attaque aux barrières d'octroi, parce que la barrière d'octroi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un surcoût des produits qui rentrent dans la capitale. Donc on s'attaque à elle comme au symbole d'une fiscalité dont on ne veut plus.
La perception de ces taxes à l'entrée de Paris est abolie par la Révolution en 1791, puis rétablie, puis supprimée définitivement cette fois-ci en 1943. L'octroi disparaît, mais reste présent dans l'imaginaire parisien et constitue même un repoussoir. En 2003, alors que Londres se dote d'un péage urbain pour limiter la circulation dans son hypercentre, la mairie de Paris écarte d'emblée cette possibilité en se référant précisément à cet octroi de sinistre mémoire.
De fait, ça reviendrait à réinstaurer une sorte d'octroi à l'entrée de la capitale qui ferait que les habitants de banlieue devraient payer pour rentrer dans la ville. Non, c'est pas notre vision de la ville. On a envie d'une ville, au contraire, qui soit ouverte et qui travaille au niveau de l'agglomération et pas simplement de Paris intramuros.
Et dans cette recherche des bonnes solutions pour connecter la capitale avec ses banlieues, tous les responsables politiques ont apporté leur contribution. Retour aux années 80 et 90, à l'époque, Jacques Chirac imagine un plan très ambitieux, incluant péage urbain, mais aussi un doublement du périphérique en souterrain, avec un objectif: adoucir et presque abolir la frontière Paris-banlieue.
Je rappelle que l'objet de cette rocade, c'est de pouvoir dégager la surface de la circulation automobile, tout ce qui est autour des boulevards des Maréchaux, et ainsi de privilégier les transports en commun, les deux roues et les piétons, et de faire des aménagements, notamment d'arbres, qui rendent la vie plus agréable et l'environnement meilleur dans cette partie de Paris.
Et ce projet, comme d'autres, est pourtant resté dans les cartons, sauf pour sa partie payante, c'est-à-dire son péage urbain, remis sur le tapis année après année, sous des formes diverses, y compris l'expérimentation temporaire. À Paris, c'est toujours non. Écoutez ce qu'en disaient les élus de la majorité et de l'opposition municipale en 2010.
Si l'objectif, c'est de lutter contre la pollution, eh bien à ce moment-là, il faut taxer les véhicules polluants. Mais si l'objectif, c'est de réserver les centres-villes uniquement aux plus riches, non, bien évidemment, je suis contre.
Pourquoi pas évoquer ce sujet, en faire un outil de réflexion, mais en même temps évoquer une gouvernance. Comment voulez-vous déclarer que Paris sera accessible au travers d'un péage si nous ne traitons pas effectivement les problèmes des communes limitrophes, en particulier dans l'offre de transport en commun pour rejoindre Paris ?
Voilà, c'était dans l'ordre la socialiste Annick Le Petit et Jean-François Lamour pour la droite parisienne. Alors, Alexis Pouliès, j'aimerais vous faire réagir à un mot qui a été prononcé justement par Jean-François Lamour et dont vous parliez aussi il y a quelques minutes. Ce mot, c'est celui de gouvernance. La question des barrières d'une ville est complexe, évidemment, à traiter à toutes les époques, socialement et politiquement. Est-ce que la question de la gouvernance entre les niveaux de responsabilité est toujours centrale ?
Moi, j'aurais plutôt envie de, excusez-moi, de réagir par rapport au, à ce que ces politiques environnementales mettent sur le devant du débat public quand on pense notamment à la taxe carbone avec les gilets jaunes, où on a l'impression que ces questions sociales elles reviennent sur le devant de la scène uniquement à travers ces politiques environnementales qui ne sont pas acceptées. Et on a l'impression que si elles n'existaient pas, on n'en parlerait même pas. Ou alors ce serait repris par certains partis politiques. Et donc un des avantages, même si évidemment c'est triste, de ces politiques, c'est que on parle de certains sujets et ça permet peut-être au moins de au-delà de mettre ces sujets sur la table, peut-être de répondre de manière plus globale à ces politiques-là et même si ce n'est pas de la mobilité, au moins de manière sociale, qu'on puisse avancer au moins sur ces choses-là.
Alors Charles Liotta, parler des barrières d'une ville, c'est aussi parler de conflictualité, et de conflictualité notamment sociale. Depuis le début de cette émission, on voyait que les ZFE, comme d'autres mécanismes d'ailleurs, des mécanismes contraignants, portent en germe une conflictualité. Comment désamorcer cette conflictualité ? Est-ce qu'il faut à chaque fois des approches spécifiques qui prennent en compte la géographie sociale des villes ? C'est ce dont vous parliez il y a quelques minutes.
Oui, tout à fait. Donc déjà, toutes les villes sont différentes. Donc les bénéfices de ces politiques-là vont être différents d'une ville à l'autre. Et leurs impacts sociaux vont également être différents d'une ville à l'autre. Mais on a aussi des études qui montrent, dans le cas des ZFE cette fois, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer à la question des péages urbains, qu'en fait, si on prend en compte le détail des situations individuelles, il est souvent possible de trouver des solutions de mobilité pour tous les habitants. Pour la plupart des habitants, en tout cas, que ça soit en leur proposant un report modal, en leur proposant des aides financières, en les aidant à trouver les aides financières adaptées. On a souvent la possibilité d'aider les habitants à s'adapter aux ZFE et lorsque ce n'est pas le cas, finalement on a un petit nombre d'habitants pour qui il est difficile de trouver une solution et pour qui la seule solution restante sera une aide financière plus conséquente pour acheter un nouveau véhicule. Mais la clé, c'est bien de s'adapter aux habitants, de leur proposer un accompagnement et de trouver la bonne solution pour chaque situation spécifique.
Mais ce que vous nous dites, Charlotte Liotta, c'est que finalement, pour faire en sorte de travailler cette acceptabilité sociale et mettre en œuvre ces zones à faible émission, c'est presque une petite dentelle, territoire par territoire, quartier par quartier, qui est liée à la typologie du logement, à la typologie des emplois, à la typologie du maillage des transports disponibles en alternative. Est-ce que des villes en Europe ont réussi à créer ça ? Est-ce que vous nous entendez, Charlotte Liotta ?
Je vous entends.
Oui.
Je vous entends.
Je disais, est-ce que vous nous décrivez une dentelle en fait en termes de conduite de politique publique qui est extrêmement complexe et ça revient aux enjeux de gouvernance dont on parlait tout à l'heure avec ce maillage et ce millefeuille territorial qui est quand même pas simple à gérer. Est-ce qu'il y a des villes en Europe qui ont réussi à justement accompagner leurs habitants de telle sorte à ce que tout se passe bien et qu'ils soient accompagnés comme vous venez en fait de le décrire ?
Alors on a des villes qui ont réussi à être ambitieuses sur les stratégies mises en place. Qui ont pu mettre en place des ZFE ou des péages urbains, mais la France reste un cas particulier. Et donc, on a peu de villes européennes qui ont mené ce travail et qui ont pu avoir un accompagnement des ménages aussi détaillé que celui qui va être nécessaire en France.
D'accord, donc on voit bien effectivement.
C'est un travail qui reste à mener. Mmh,
on voit bien effectivement la montagne qui reste à gravir. Tout cela renvoie aussi aux logiques de planification urbaine à la nécessité de repenser ces métropoles, cet étalement urbain, la place de la voiture, repenser des métropoles peut-être à minima polycentriques. Est-ce que ça veut dire, Alexis Pouliès, qu'il va falloir casser ces énormes villes?
Oui, la question de l'étalement urbain n'est pas que une question française, même si elle l'est tout particulièrement. Et c'est sûr que cette question-là, qui date déjà depuis plus de 70 ans...
Donc on n'a pas réussi, c'est ça que vous dites.
Je pense que c'est pas le plus simple à mettre en place, sachant que le renouvellement urbain est très faible en France. On construit pas assez par rapport à, c'est pas avec la construction qu'on va résoudre les problèmes, même si, depuis quelques années, c'est pas encore parfait, mais on commence déjà à faire des choses plus à l'échelle plus humaine, et plus à l'échelle des déplacements actifs, donc le vélo et la marche.
Mmh. Et on pense en termes de bassin de vie, déjà. On voit que dans les politiques publiques, dans les intercommunalités notamment, on commence à penser à la logique du bassin de vie et non pas plus largement.
Il y a de plus en plus de réflexions larges, de documents d'urbanisme qui aident à réfléchir à cette échelle-là. Mais vu que les millefeuilles territoriales et la décision au final revient souvent aux maires, donc dans les prises de décision, c'est souvent soit une échelle très locale, soit une échelle très large. Le manque de gouvernance forte, de manière commune peut-être aussi sur le logement, l'aménagement et les transports, qui sont pas donc soit faites par les mêmes services, soit même par les mêmes échelons territoriaux, fait que la cohérence est rarement au rendez-vous.
Charlotte Lota, vous êtes d'accord, casser les métropoles et repenser l'urbanité, c'est une chose, mais on n'a pas encore l'espace en termes de gouvernance qui pourrait permettre ces transformations.
Alors, je voulais réagir à ce que vous disiez juste avant. Mm-hmm. À ce que vous disiez juste avant.
Je vous en prie.
Sur la question de la polycentricité. Voilà, juste pour rappeler quelque chose, mais. En fait, on a un peu un arbitrage à mener, parce que avoir des villes, et en particulier avoir des grandes villes, c'est quelque chose qui est très bon en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les grandes villes, plus les villes sont, avoir des grandes villes, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a généralement dans les grandes villes plus de transports en commun, des logements mieux isolés, etc. Par contre, avoir des très grandes villes, c'est pas forcément ce qui est le mieux en termes de santé, de qualité de vie, parce qu'on a une plus grande exposition malgré tout des habitants à la pollution de l'air notamment, mais aussi au bruit, etc. Et donc en fait c'est des questions d'arbitrage à mener entre émissions de gaz à effet de serre, donc les pollutions globales, et qualité de vie et pollution locale.
Donc
la bonne forme urbaine.
Et donc la bonne forme urbaine, elle restera à inventer, c'est ce qu'on entend. On voit bien que vous nous avez posé les enjeux de gouvernance et la nécessité justement de repenser cela à la bonne échelle. Merci Alexis Pouliès, merci Charlotte Lyotta d'avoir été avec nous malgré la liaison parfois un petit peu difficile. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Vanessa Nadjar qui l'a réalisée. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 20h, et d'ici là, très bon week-end évidemment sur France Culture. We'll be right back.